Radio Judaïka, Fréquence Europe, Olivier Singer.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission européenne coproduite et diffusée par Radio Judaïka, RCF Alsace. Cette émission est réalisée avec le soutien du Centre Europe Direct de Strasbourg. Cette semaine se tient la session d'été de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, toujours sous forme hybride, c'est-à-dire avec des élus présents ici à Strasbourg et d'autres y participant en distanciel. Alors au programme d'abord un grand événement qui est organisé pour les 10 ans de la Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence et les violences domestiques. Alors que toute l'Europe se déconfine, l'Assemblée parlementaire débattra aussi de la protection des droits fondamentaux et des implications légales des passes et des certificats Covid. Et nous avons le plaisir d'avoir aujourd'hui avec nous Damien Cottier, qui a réalisé le rapport parlementaire sur cette question des passes Covid et des droits fondamentaux. Bonjour Monsieur Cottier.
Bonjour.
Alors permettez-moi de vous présenter en quelques mots. Vous êtes donc Suisse et plus précisément de Neuchâtel. Vous avez été élu en octobre 2019 conseiller national auprès de l'Assemblée fédérale suisse. Vous êtes élu sur l'étiquette PLR, le parti libéral radical qui compte 29 conseillers nationaux sur les 200. C'est bien ça?
C'est juste. Oui.
Ce qui représente à peu près le troisième parti suisse.
Voilà, sur l'ensemble du Parlement et puis en force électorale dans le pays, aussi dans les cantons, on est le troisième parti suisse. Mais...
Nous profiterons aussi de vous avoir avec nous pour avoir vos éclairages sur un sujet assez complexe que sont les relations entre la Suisse et l'Union. Alors, Monsieur Cottier, merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Quelles ont été les raisons personnelles qui vous ont conduit à choisir de siéger au sein de cette Assemblée, puisque je le répète, c'est celle qui réunit des élus des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Donc voilà, vous êtes élu auprès du Conseil national suisse. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir à Strasbourg pour siéger au sein de cette Assemblée ?
Mais d'abord, le Conseil de l'Europe, c'est au fond le garant des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit sur notre continent. Donc c'est un rôle qui me semble assez fondamental. Dans une société qui parfois remet un peu en cause ces valeurs, on voit dans certains pays que ces valeurs, ces principes fondamentaux qu'on croyait ancrés et sur tout le continent après la chute du rideau de fer, sont parfois un peu écornés, voire attaqués. Et je crois que c'est important qu'on se batte pour ces valeurs qui sont des valeurs qui véritablement portent une société ouverte, une société tolérante, une société démocratique, une société aussi d'égalité des droits. Parce que l'égalité des droits passe par l'état de droit, par le fait de pouvoir recourir devant les tribunaux, de ne pas avoir d'arbitraire de l'État. Donc je trouve qu'il y a des valeurs très très fortes derrière qui valent la peine qu'on s'engage pour elles. Et puis il y a une autre dimension qui est celle du dialogue politique entre les différents partis, mais aussi entre les différents pays. Et c'est quelque chose auquel je crois fondamentalement. Et le Conseil de l'Europe, c'est cela. C'est 47 pays, des députés élus, des parlements de 47 pays qui se retrouvent et qui échangent, même sur des thèmes difficiles, sur des conflits qui sont en cours entre certains pays. Mais ils sont là et ils se parlent. Et quand on se parle, c'est déjà un très bon début pour résoudre les problèmes. Et je trouve que ça donne un cadre qui est véritablement nécessaire et utile. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans la diplomatie ces 10-12 dernières années. Et évidemment, c'est quelque chose auquel je suis attaché.
Finalement, quand on regarde la Suisse par rapport au Conseil de l'Europe, ça n'a pas été aussi simple que ça dès le départ, puisque vous n'êtes pas un État fondateur, la Suisse. Vous êtes pourtant le pays originaire de ce qu'on appelle les conventions de Genève, de la Croix-Rouge. Et il a fallu attendre 1963, alors que le Conseil de l'Europe s'est créé en 1949. Qu'est-ce qui a fait ce décalage? Pourquoi la Suisse a hésité à adhérer à une structure telle que le Conseil de l'Europe?
Bon, la Suisse a une histoire assez particulière en Europe. Elle a eu la chance extraordinaire d'être largement préservée des deux conflits mondiaux, en particulier pendant le XXe siècle. Et elle avait pris une attitude en termes de politique européenne et extérieure extrêmement prudente. En fait, elle a vraiment considéré que sa neutralité était un élément qui était à la fois stabilisant pour l'Europe et qui la protégeait. Et elle ne voulait pas remettre en cause cette neutralité politique en adhérant à des alliances ou à des groupes d'États qui pouvaient être perçus comme étant d'un côté plutôt que de l'autre. Et aussi ça pendant la période de guerre froide en particulier. Donc la Suisse a mis beaucoup de temps aussi à adhérer, ne serait-ce qu'à l'Organisation des Nations Unies. Elle y a adhéré en 2002, je crois. Mais enfin, il lui a fallu plus de 50 ans pour y adhérer. Un peu pour les mêmes raisons, elle a attendu que ça devienne une organisation véritablement universelle. pour pouvoir apporter sa contribution sans se donner l'impression, sans avoir l'impression de prendre parti. Et c'est aussi un peu ça qui a expliqué une certaine lenteur à rejoindre le Conseil de l'Europe. Et puis aussi une autre dimension, c'est qu'il fallait mettre un peu en ordre la maison, si je peux dire, parce qu'il y a un certain nombre de valeurs auxquelles on n'était pas encore tout à fait aligné, notamment le droit de vote des femmes.
Tout à fait.
Il a fallu un référendum, et en fait il en a fallu plusieurs pour que les femmes puissent voter en Suisse. C'est venu il y a 50 ans seulement. Et suite à une votation populaire, il a fallu au fond que les hommes votent pour donner le droit de vote aux femmes. Ça n'a pas été du premier coup, ça n'a pas été si facile. Mais c'était une condition préalable pour adhérer au Conseil de l'Europe et aux valeurs de celle-ci à travers la Convention européenne des droits de l'homme.
Ah, mais la Suisse aujourd'hui jouit d'une image très positive, hein, notamment en matière de droits de l'homme, et souvent montrée comme un exemple, notamment pour son système démocratique et son système de démocratie directe, avec cette initiative populaire qui est vraiment regardée par tout le monde. Hein. Nous, pendant la crise qu'on a appelée des gilets jaunes ici, ce système-là était quand même et toujours regardé, pas toujours bien compris. Pouvez-vous nous expliquer, nous décrypter pour nous ce système de démocratie directe qui existe en Suisse?
C'est vrai que c'est un système assez particulier auquel tous les Suisses sont extrêmement attachés, auquel ils ne pourraient pas imaginer renoncer, qui demande un très grand engagement au fond de tous les citoyens, parce que quatre fois par année, on est appelé à s'exprimer par référendum sur plusieurs sujets. Nous avons une votation, comme on l'appelle, une votation fédérale la semaine passée, il y a 10 jours, et la population suisse était appelée à s'exprimer sur 5 projets. Deux initiatives populaires, comme on les appelle, donc ce sont des projets qui sont lancés par la population ou par des comités. Vous récoltez 100 000 signatures dans l'ensemble du pays et vous soumettez un sujet dans l'agenda politique et au vote du peuple. Et 3 référendums, donc des lois qui avaient été votées, adoptées par le Parlement et qui étaient soumises à la possibilité pour la population de demander est-ce qu'il y a un vote là-dessus. Et là, il faut récolter 50 000 signatures, ce qui est relativement peu d'ailleurs. Et donc sur des sujets extrêmement variés, comme la loi qui permet d'apporter des aides économiques dans le cadre de la crise du Covid, comme la loi sur le CO2, qui était une loi qui voulait permettre à la Suisse de remplir ses engagements de l'accord de Paris pour le climat,
sur la question des pesticides.
Texte qui a été refusé de justesse dans un contexte économique un petit peu compliqué, qui explique peut-être une partie de cette votation. Mais enfin, ça demande à la population de faire un peu le travail du Parlement. Et j'aime bien dire qu'en Suisse, au fond, chaque citoyen a un mandat politique. Il n'est pas élu, mais il est citoyen et il est appelé à s'exprimer sur les grands objets. Et ça donne vraiment un débat démocratique qui est très profond. Et quand elles sont acceptées, un ancrage aux lois ou aux décisions qui est extrêmement fort, parce qu'on a véritablement un appui populaire qui est incontestable.
Nous qui venons d'avoir des élections locales, régionales, on voit que la participation est faible. Sur ce système de votation, quelle est la moyenne de participation?
La participation n'est pas très élevée en Suisse. Elle ressemble à celle que vous avez eue lors de ces dernières élections. Entre 30 et 40%, c'est la participation plus habituelle. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des votations qui mobilisent plus, et ça a été le cas il y a 10 jours. Où on était au-dessus des 50%. Donc il y avait des thématiques qui mobilisaient plus. Et à ce moment-là, les gens se rendent...
Il faut un minimum
Il ne faut pas un minimum, non. Non, c'est rare qu'on soit, disons, je n'ai jamais vu qu'on soit en dessous de 30%, heureusement. Il n'y a pas de minimum dans la Constitution. Des études universitaires avaient montré qu'au fond, ce n'était pas toujours les mêmes qui s'abstenaient. Il n'y a pas des gens qui ne participent jamais et d'autres qui participent toujours. Il y a un peu un tournus. En fonction des thématiques, les gens s'intéressent plus ou moins. Et donc, tous les citoyens s'engagent d'une certaine manière, mais peut-être pas à chaque occasion. C'est vrai qu'on vote aussi souvent en Suisse. Donc, des fois, les gens aussi ont peut-être envie de faire autre chose.
Mais il y a un sujet qui est intéressant, c'est... ce système démocratique que vous avez, des fois, pose question, surtout aujourd'hui, avec ce qu'on appelle, pas le complotisme, mais les fake news, mais aussi un peu le complotisme. Est-ce que vous en avez jamais eu peur de cette utilisation un peu du populisme qui ferait un petit peu peur aux gens pour les faire voter d'une certaine manière ou leur faire croire que des choses fausses?
Je crois que l'ère digitale, c'est ces nouveaux moyens, les réseaux sociaux... Cette ère des fake news est en soi un danger ou un risque, en tout cas pour la démocratie, mais d'une manière générale, pas pour une démocratie directe ou semi-directe, comme on l'appelle comme en Suisse uniquement, pour une autre démocratie qui fonctionne à travers des élections, le danger n'est pas très différent en réalité. Donc il faut y être très attentif, il faut en face véritablement veiller à ce que la population ait accès aux informations de qualité et puisse se faire un avis. Mais après, il faut faire confiance à la population aussi, les gens se renseignent. Et moi, c'est ça qui me frappe toujours dans les votations en Suisse, c'est que les gens prennent vraiment la peine d'écouter les débats, de s'informer pour se faire leur propre opinion. Et parfois, ceux qui ne votent pas sont ceux qui n'ont pas eu le temps de suffisamment préparer ou de se renseigner. Et puis se disent, bah, finalement, je ne vais pas m'exprimer parce que je ne connais pas le sujet. Ceux qui s'expriment souvent prennent pas mal de temps pour lire la documentation, écouter les débats. Et donc prennent ça très au sérieux. Et je crois qu'il faut vraiment faire confiance à la population. Mais c'est vrai que nous, politiques, on doit veiller à ce qu'elle ait accès à une information qui soit diversifiée et de qualité.
C'est une forme de maturité politique donc, que connaît la Suisse.
Ben, ça fait plus de 40 ans maintenant qu'on a ce système. Donc il est très ancré. On grandit avec ça. Lorsque moi j'étais enfant, j'allais avec mon papa ou ma maman au bureau de vote et ils m'expliquaient comment ça marchait. On avait des discussions à la maison sur la thématique. Les enfants s'intéressent à l'école, dans la famille. C'est quelque chose qui fait partie de notre ADN. Donc on grandit avec ça. Et oui, il y a une certaine maturité de l'électorat aussi parce qu'il a l'habitude de voter. Et du coup, il répond à la question qu'on lui pose. Ça ne devient pas un référendum pour ou contre le gouvernement ou les autorités. On lui pose une question sur une loi sur le climat. Eh bien, la réponse, elle est sur la loi sur le climat et les mesures qui sont proposées. Et non pas sur la popularité des élus. Et je crois que ça, c'est possible aussi parce qu'il y a ces référendums qui ont lieu 4 fois par année, donc régulièrement. Donc, il n'y a pas besoin d'exprimer un mécontentement à travers cela.
Il y a aussi le système électoral qui est quand même assez lié. Vous êtes aussi dans une culture un peu de compromis, un peu, je dirais pas germanique, mais ça ressemble quand même aussi à un système qui n'est pas le système français où c'est vraiment des camps qui s'affrontent, alors que là, vous êtes quand même dans une démarche qui est différente en Suisse.
Oui, tout à fait. On a un système de gouvernement qui, alors si on le comparait au système allemand, on dirait de grandes coalitions. C'est pas vraiment une coalition parce qu'il n'y a pas un accord entre les partis sur un programme en début de législature, mais on a un gouvernement qui est composé, fédéral, qui est composé de 7 personnes, c'est fixé dans la Constitution, on ne peut pas le changer. Et ces 7 personnes sont aujourd'hui réparties sur 4 partis politiques, avec ce qu'on appelle une formule magique depuis une soixantaine d'années. Les 3 plus grands partis ont 2 ministres et le 4e en a 1. Et c'est un petit peu bousculé actuellement parce qu'aujourd'hui, on a plutôt 5 grands partis que 4 avec une montée du courant écologiste. Donc, il y a des réflexions sur la composition exacte. Mais ces 4 grands partis actuels couvrent pratiquement 80% du Parlement. Et pour autant, ça ne veut pas dire que quand le gouvernement vient avec un projet devant le Parlement, il passe automatiquement. De loin pas, le Parlement se réserve tout à fait le droit de contester et très souvent, il refuse des propositions du gouvernement. Donc, c'est un système dans lequel, et dans les cantons, c'est la même chose, dans lesquels les partis travaillent ensemble, même s'ils sont en concurrence électorale, quand ils sont dans le gouvernement, ils essayent de former des solutions de consensus. Et ça fait vraiment partie de notre culture politique.
Donc j'aimerais revenir sur votre rapport que vous avez fait sur le Covid. On sait qu'aujourd'hui, il va y avoir un pass Covid numérique dans l'Union européenne et même avec la Suisse, ce sera le même, puisqu'on est dans l'espace Schengen. Vous avez adopté un rapport. Qu'est-ce qui pouvait poser problème par rapport aux droits fondamentaux, alors qu'on retrouve finalement aussi une liberté qui est celle de pouvoir circuler?
C'est une recherche d'équilibre. Et le débat qui a eu lieu ici à Strasbourg, à l'Assemblée parlementaire, avec beaucoup d'intervenants de toutes les régions d'Europe d'ailleurs, a bien montré, pratiquement tout le monde est intervenu dans la même direction, en disant au fond, ces passeports ou ces certificats sont un auxiliaire pour nous permettre de retrouver des libertés, participer à des grands événements culturels et sportifs par exemple, ce qui n'était plus possible jusqu'à présent, tout en assurant la sécurité sanitaire. Mais il y a un risque, c'est celui de créer une société à plusieurs vitesses. Parce que si vous ne l'organisez pas bien, suivant le type de prestation auquel ça donne droit, ou bien suivant la manière d'organiser les choses, vous pouvez avoir des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple, qui n'auraient pas accès à certaines prestations. Alors ça ne serait pas acceptable pour les prestations fondamentales ou pour les prestations des autorités publiques. On ne peut pas vous interdire de prendre le train ou le bus ou d'aller à l'école ou d'entrer à l'hôpital si vous n'êtes pas vacciné dans un état de droit, parce que ce serait une atteinte à vos droits fondamentaux d'avoir accès à ces services. Par contre, si c'est de pouvoir aller à un concert, eh bien c'est quelque chose qui est considéré comme acceptable parce qu'il y a des raisons sanitaires valables de mettre ces limites. Et puis en plus, c'est limité dans le temps. Puis l'autre aspect, c'est effectivement la manière de mettre en place ce passeport. Et on a beaucoup travaillé à ça. Le fait qu'il n'y ait pas seulement les personnes vaccinées, mais aussi les personnes qui sont guéries ou les personnes qui ont subi un test, qui peuvent accéder à ce type de prestations ou de lieux comme un concert, eh bien ça ouvre pratiquement à l'ensemble de la population. Parce que sinon, vous introduisez une sorte d'obligation vaccinale par la bande, en disant, gens, vous n'êtes pas obligé de vous vacciner, mais il y a tout un tas de prestations auxquelles vous n'avez pas droit si vous ne le faites pas. Alors que là, on peut le faire à travers un test, par exemple.
Mais quand on voit le coût des tests, il n'est pas le même partout. Donc ça discrimine indirectement quand même pas mal de monde.
Alors c'est une des questions qu'on a soulevées. Et en recommandant, nous on ne prend pas des décisions, mais on fait des recommandations au gouvernement des 47 États membres du Conseil de l'Europe. On leur a dit aussi, faites attention. Effectivement, si le test est un test coûteux, ça va créer une limite. Donc il faut soit qu'il soit gratuit, soit qu'il soit très accessible. En Suisse, par exemple, le gouvernement a pris des décisions encore aujourd'hui sur la mise en place de ce pass. Il a décidé qu'il n'y aurait pas seulement le test PCR, qui est très cher en Suisse, mais aussi le test antigénique, qui peut être gratuit suivant à certaines conditions pour la population. Alors ça vous permet, vous voulez aller à un festival auquel il est possible d'accéder avec un pass, mais vous n'êtes pas encore vacciné, eh bien avec un test antigénique rapide, gratuit ou bon marché, ça permet de le faire et du coup c'est accessible pour tout le monde. Donc il faut effectivement veiller à ça et c'est à ça que sert le Conseil de l'Europe au fond. C'est de dire au gouvernement, attention, il y a un cadre, cet instrument qui est tout à fait nouveau peut créer des problèmes. Voilà tous les problèmes qui peuvent se poser et faites attention à la manière de mettre les choses en place pour tenir compte de ces difficultés et les contourner ou les éviter. Parce qu'on peut répondre à toutes ces questions, mais il faut vraiment se poser les bonnes questions en amont avant d'instaurer un système puis après de se rendre compte qu'on a fait quelque chose qui était problématique pour la population.
Alors, Monsieur Côtier, je vous propose de faire une petite pause musicale. Alors, c'est une pause musicale de mon premier déconfinement, puisque c'était un concert à la laiterie à Strasbourg avec Kit Francescoli, que je vous propose d'écouter et de partager pendant cette petite pause musicale.
One, two, three. Got me?
Monsieur Côtier, alors je rappelle que vous êtes donc un député suisse, conseiller national en Suisse. Nous, on dirait député, mais vous appelez ça conseiller national.
Formellement, on dit député au Conseil national. En fait. Alors, c'est le terme officiel, mais on dit conseiller national.
Alors, j'ai tout dit, député au Conseil national. Vous êtes ici à Strasbourg parce que vous siégez au sein de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Mais là, j'aimerais passer à l'Union européenne. D'abord, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne. Monsieur Côtier, comment vous expliquez que cette adhésion d'un pays comme la Suisse, qui partage donc les valeurs de l'Union européenne, qui n'est entourée que de pays de l'Union européenne, voire de pays qui participent à l'espace économique européen, comme le Liechtenstein ou autres, qui est donc entouré totalement de pays de l'Union européenne, n'est jamais pu passer ce cap de dire finalement j'ai besoin de travailler avec mes voisins d'une manière totalement intégrée?
Alors, ne pas être membre de l'Union européenne ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler avec ses voisins, bien au contraire, et on va y venir. Mais je crois que c'est vraiment lié à l'histoire et à la culture de la Suisse. La Suisse s'est formée, au fond, par une agglomération de cantons au fil des siècles, ça a pris pratiquement 7 siècles, par alliance, en fait, entre cantons pour se protéger des puissants voisins qui étaient la France, qui était l'Autriche pendant longtemps, et puis après l'Allemagne quand celle-ci s'est unifiée. Et donc, il y a une construction qui s'est faite pour garder ou créer une certaine indépendance. Et puis, après, avec l'histoire du XXe siècle, la Suisse a été largement préservée des conflits. Elle a eu cette conviction d'autant plus forte que son indépendance et que sa neutralité la protégeaient des affres et des difficultés du monde. Et elle y est très attachée. Au fond, la Suisse, elle veut collaborer avec ses voisins. Et c'est en termes économiques, en termes scientifiques, en termes culturels. Si on regarde les chiffres, c'est un des pays les plus globalisés de la planète. Qui commerce avec le monde entier, qui est extrêmement ouvert, en fait, notamment dans son économie, aussi ses universités, ses centres de recherche. Par contre, elle ne souhaite pas être membre d'un club qui a un projet politique. Elle souhaite avoir son projet politique à elle en tant qu'État indépendant. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas souhaité rejoindre l'Union européenne, comme d'autres. D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Évidemment, il y a la Grande-Bretagne qui maintenant a pris ce choix, mais il y a aussi la Norvège, par exemple, qui n'a jamais souhaité rejoindre, ou l'Islande, parce que c'est des pays qui ont leur propre oui, projet politique et commercial, oui. Une spécificité qu'elles veulent préserver. Mais pour autant, nous souhaitons avoir des relations extrêmement intenses, et nous en avons, avec nos voisins et avec l'Union européenne.
Ce qui s'explique, puisque vous n'êtes pas membre, mais vous avez quand même des relations avec l'Union européenne qui sont basées sur 120 accords bilatéraux, sectoriels, sur la libre circulation des personnes, sur les échanges de marchandises, sur les transports, sur l'agriculture, sur la recherche, comme vous l'avez dit. Mais ces accords ne sont plus totalement adaptés aux évolutions, je dirais, du droit de l'Union, qui évolue très vite. Certains arrivant même à terme, hein, qui sont donc révolus. Et la Suisse était en train de finaliser un accord avec l'Union européenne qui devait prendre donc le relais, les relais de tous ces accords bilatéraux qui sont quand même assez complexes. Quelles sont selon vous les raisons du blocage et du refus de la ratification de cet accord cadre négocié depuis plus de 7 ans, hein ?
Alors cet accord cadre institutionnel entre la Suisse et l'Union européenne qui a été négocié, comme on l'appelait, n'aurait pas vraiment pris le relais des accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, mais l'aurait mis un chapeau. Sur cet assemblage de 120 accords, et particulièrement de 5 accords clés qui sont des accords d'accès au marché de l'Union européenne. La Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais elle a des accords avec celle-ci pour accéder à certains pans du marché, dont la libre circulation des personnes, les produits agricoles transformés, l'exportation de certains produits industriels, etc. Et puis, la difficulté, c'est que ce corpus d'accords est fixe, en fait. Il n'évolue pas avec le temps, alors même que le marché de l'Union européenne, vous l'avez dit, évolue de manière extrêmement dynamique. Et donc, il faut des mises à jour régulières. Et ce projet d'accord cadre aurait notamment permis de créer une certaine dynamisation de la reprise du droit. L'accord n'a pas abouti. C'est en fait une décision du gouvernement suisse il y a à peu près un mois d'interrompre les négociations après 7 ans parce qu'il n'était pas convaincu du résultat de la négociation à l'état où il était, pensant que cela intégrerait trop la Suisse, notamment dans l'accord de la libre circulation des personnes, en donnant des droits sociaux notamment. La Suisse avait à l'époque adhéré le souhait d'adhérer à la libre circulation en fait, des travailleurs, c'est-à-dire les personnes qui ont un contrat de travail peuvent venir travailler en Suisse. Mais avec l'évolution de ce qu'on appelait la directive citoyenneté de l'Union européenne, il y a aussi un droit à certaines prestations sociales, même pour des personnes qui n'auraient pas déjà travaillé dans le pays. Et ça, c'était un peu une crainte, qu'il y ait des personnes qui viennent s'installer au fond pour bénéficier des prestations sociales, sachant qu'il y a un niveau de vie et de revenu qui est très différent de la Suisse et ses voisins.
Ça s'est posé avec le Brexit aussi, hein, ouais. Qui était une des conditions. Mais normalement, on a dans les droits nationaux de chacun des pays, c'est eux qui définissent quels sont les critères pour avoir droit aux prestations sociales. Alors, par exemple, on ne peut pas venir pour avoir des prestations sociales, il faut d'abord travailler ou autre.
C'était le cas, mais il y a eu une évolution du droit de l'Union européenne dans ce domaine-là. Et il y a des droits qui sont facilités et favorisés, ce qu'on peut parfaitement comprendre au sein de l'Union européenne, parce qu'on souhaite chercher à créer, enfin l'Union veut créer vraiment une libre circulation de l'ensemble de ses citoyens dans tous ces États, mais nous ne sommes pas membres de l'Union européenne, la Suisse, et on trouvait que ça allait un petit peu trop loin. Et sur ce point-là, qui est un des points d'achoppement, il n'a pas vraiment été possible à ce stade de trouver un accord avec la Commission européenne. Moi, je suis de ceux qui regrettent cette interruption des négociations parce que je pense qu'on aurait pu continuer d'y travailler et trouver des solutions pragmatiques sur ces questions-là. Mais le gouvernement, à un moment donné, a estimé que les choses n'étaient pas suffisamment mûres et que du coup, le projet d'accord n'aurait pas de majorité politique en Suisse et que ce n'était pas la peine de continuer, qu'il fallait essayer de trouver d'autres solutions. Oui. C'était ça son appréciation.
L'appréciation, c'était qu'on pouvait très bien avoir à nouveau, on revient sur notre sujet de notre première partie, une initiative populaire sur cette question-là ou une demande de référendum par des partis politiques et donc à nouveau un débat sur l'Union européenne qui divise quand même beaucoup les Suisses.
Il y aurait même probablement eu ce qu'on appelle un référendum obligatoire, c'est-à-dire que le Parlement aurait pris une décision, mais sans qu'il y ait de récolte de signatures, et cet accord aurait été soumis au peuple. Et avec un système en plus de la double majorité dans ces cas-là, comme pour un changement de la Constitution, à savoir que vous devez avoir la majorité du peuple et du nombre de cantons qui se sont exprimés. Ce qui est relativement difficile à obtenir, surtout sur des sujets de politique extérieure. Donc ça fige un petit peu le débat. La voie bilatérale, comme on l'a appelé, ce système d'accord entre la Suisse et l'Union européenne a vraiment pacifié la politique européenne de la Suisse ces 20 dernières années. Ça a permis de trouver une très large majorité de la population qui soutient cette politique-là, alors qu'il y a très peu de Suisses qui voudraient adhérer à l'Union européenne. Il y en a très peu qui sont favorables à l'espace économique européen et il y en a aussi très peu qui sont pour ce qu'on appelle la voie solitaire, c'est-à-dire une espèce d'isolement du pays. Donc là, on a un petit risque de cohésion interne avec cette décision.
Je veux pas, hein, vous froissez, mais il n'y a pas une forme d'hypocrisie au total, puisqu'il y a quand même une réalité de collaboration qui est quand même totale. Moi, j'ai vu les chiffres, hein, il y a plus de 1,4 million d'Européens qui vivent en Suisse. Suisse actuellement. Il y a 400 000 Suisses qui vivent dans l'Union européenne. Il y a 350 000 frontaliers qui travaillent tous les jours, qui traversent la frontière. Est-ce que et après, il y a les relations commerciales, hein, premier partenaire commercial. Tout est fait que c'est très, très lié. Est-ce qu'il y avait un tel risque, au vu de la situation, d'avoir une situation qui pouvait se complexifier à ce point ?
Ça a été l'appréciation du gouvernement de dire il y a trop de points négatifs dans cet accord et on n'aura pas de majorité politique en Suisse. Moi, à titre personnel, je ne partage pas cette appréciation et j'aurais souhaité, espéré, et j'ai demandé au gouvernement qu'on continue de négocier et qu'on trouve des solutions parce que nous avons des deux côtés des relations, vous l'avez dit, tellement fortes, tellement denses et un intérêt majeur à continuer d'avoir les meilleures relations possibles. Mais voilà, il y a une analyse du gouvernement qui consistait à dire cet accord-là tel qu'il est fait ne nous convient pas. La difficulté de la Suisse, c'est qu'elle ne négocie pas avec un pays voisin comme quand elle négociait ou qu'elle négocie encore dans certains domaines qui ne sont pas communautaires, avec la France par exemple. Vous avez deux États qui se mettent d'accord sur la solution commune. Là, vous avez le club des 27 plus les trois membres de l'espace économique européen qui ensemble définissent un certain nombre de règles. Et puis la Suisse, elle les reprend ou elle ne fait pas partie de ce marché-là.
C'est parce qu'elle n'est pas membre. Oui.
Absolument. Donc elle ne participe pas à la décision. Et ce n'est pas vraiment une négociation bilatérale dans le sens qu'on trouve une solution commune. En fait, on reprend ou on ne reprend pas la règle. Et parfois, la Suisse souhaite la reprendre et parfois pas. Parfois, elle aimerait la reprendre et c'est l'Union qui ne veut pas. On trouve toujours des accords que quand les deux partenaires y voient un intérêt. Et ce corpus de 120 accords, c'est parce qu'il y a un intérêt des deux côtés. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est trouver des solutions diplomatiques créatives voilà. Pour résoudre ces problèmes, parce que les problèmes n'ont pas disparu de la table.
C'est exactement la question que je voulais vous poser. On en est où maintenant ? Donc, on a un blocage sur ce texte. Est-ce qu'on reste sur le texte du passé ? Donc, comment ça se passe concrètement ?
Mais alors, c'est ça. Les accords actuels continuent d'exister, ils sont valables juridiquement, ils sont en place. Simplement, il n'y a pas forcément des mises à jour automatiques et ce sera une négociation diplomatique à chaque fois de dire est-ce qu'on peut... Par exemple, il y a le nouveau programme de recherche Horizon de l'Union européenne. La Suisse a toujours participé au programme de recherche avec un statut qui était plus fort il y a quelques années, qui a un petit peu diminué. Et là, on demande de participer au moins en tant qu'État tiers, ce qui est le cas d'Israël et de la Grande-Bretagne. Et on ne voit pas pourquoi la Suisse serait mise complètement à l'écart, alors même que ces institutions de recherche, ces universités sont extrêmement fortes dans la collaboration avec les universités, les centres de recherche européens. Mais ça va nécessiter une négociation, parce que l'Union a ce programme, et c'est à elle aussi de décider si elle accepte que la Suisse en fasse partie, même si ce serait d'intérêt mutuel.
Alors, j'aimerais terminer cette émission pour avoir votre avis sur un sujet qui est lié un peu au Conseil de l'Europe et à l'Europe. Ce soir, il y a un match de football, si je ne me trompe pas. Il y a la Hongrie qui va affronter l'Allemagne. Et il y avait toute une polémique avec la Hongrie, puisque la Hongrie a adopté une loi totalement homophobe, ou en tout cas qui stigmatise les homosexuels. Le stade de l'Allianz Arena devait être mise aux couleurs LGBTI, ce qui a été refusé par l'UEFA. Vous êtes au Conseil de l'Europe. On pourrait rajouter que la Hongrie préside le comité des ministres du Conseil de l'Europe. Comment vous voyez cette situation, et surtout par rapport à l'UEFA, qu'on pourrait rappeler, qui est installée en Suisse ?
Mais sur cette question-là, la Hongrie a repris la présidence du comité des ministres du Conseil de l'Europe. Et moi, j'ai interpellé avant-hier le ministre des Affaires étrangères qui assume la présidence en charge, justement sur les questions des droits des LGBTI dans l'Europe et ce que la Hongrie pense faire. Et aussi, évidemment, en Hongrie, parce qu'il y a véritablement là quelque chose qui ne va pas, une évolution qui n'est pas bonne. Il y a des minorités qu'il faut protéger. Une minorité d'ailleurs dont je fais partie. Et c'est pas pour protéger un groupe, c'est pour protéger les droits de tous les individus. Il faut que les droits de l'homme soient accessibles à tous et que certaines catégories de population ne soient pas discriminées. Et c'est la responsabilité de chaque État, c'est le rôle du Conseil de l'Europe. Et je crois que la présidence a aussi un devoir de le faire. Et évidemment, la Hongrie et quelques autres pays ne montrent pas vraiment la bonne voie de ce côté-là. Donc il faut continuer d'en parler, il faut continuer de faire pression. Finalement, c'est très bien cette discussion qu'il y a autour de l'aréna de Munich. Bon, je peux comprendre l'UEFA qui dit on ne thématise pas un thème de nature politique malgré tout, même si ce n'est pas une opinion, le fait des LGBT.
Mais là, on peut quand même dire que c'est des valeurs qu'on défend, comme la lutte contre le racisme, comme d'autres choses. C'est l'UEFA
doit
faire ça.
La ville de Munich a trouvé une jolie solution en décorant aujourd'hui son hôtel de ville et non pas le stade. Voilà. Mais au fond, avec la discussion qu'il y a eu là autour, avec aussi le tweet d'Antoine Griezmann et de quelques autres, le débat il a eu lieu et je crois que les valeurs ont été défendues de manière déjà extrêmement forte. Et je trouve très bien qu'il y ait aussi ce type de discussion, notamment dans le domaine du football qui a vraiment des progrès à faire sur ces questions-là.
Ben, je voulais vous remercier, M. Cottier, d'être venu tout spécialement dans nos studios pour cette émission. Quant à nous, je vous donne rendez-vous après l'été, puisque c'était notre dernière émission, pour continuer à aller à la rencontre de personnalités et d'acteurs qui font l'Europe. À bientôt.
Merci.